Perché non sa voler bene?
Perché non è vero che una donna possa cambiare un uomo.
Perché non sa voler bene?
أنت لاعب الكرة. هل تعرف أن الكرة محرمة؟
You know, I don't see what there is to be cagey about, Mr. Marlowe. But I don't like your manners.
Well, I'm not crazy about yours. I didn't ask to see you.
Mais recueillons-nous plutôt devant l'image de souffrance de ce beau visage de prédateur des montagnes.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre émission de cinéma sur Transistor, des toiles plein les yeux. Cette semaine, notre toile est faite des ombres magnifiques et tragiques de Tesnota, premier film du russe Kantemir Balagov, et de Neuf Doigts de F.J. Hossang. Quant aux yeux, ce sont ceux de Maë et Léa qui m'accompagnent aujourd'hui. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, Tesnota, une vie à l'étroit. C'est le titre français de ce film de Kantemir Balagov, tourné sous l'égide d'Alexandre Sokourov. À l'étroit, c'est ainsi que vit Ila, entre une famille juive qui subsiste tant bien que mal grâce à ses talents de mécanicienne, et à un copain qu'elle voit en douce parce qu'il ne fait pas bon fréquenter un cabarde pour une juive dans cette région du Nord-Caucase. Et puis un soir, le frère d'Ila est kidnappé, la famille implose, la communauté fuit, reste la nuit comme un refuge. Je m'arrêterai là, on en dira peut-être un petit peu plus, et je me tourne vers vous, Maë, Léa. Qu'est-ce que vous en avez pensé?
J'ai beaucoup aimé ce film. Je pense qu'il y aura beaucoup à en dire, notamment par rapport à son esthétique qui est assez particulière. Qui met un peu à distance ce qui se passe et en même temps qui cette manière de filmer là et ce regard et ces couleurs là qui permettent le mieux, je pense, d'entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire au cœur de cette communauté juive qui, enfin, avec laquelle on vit au plus près. Enfin, il y a vraiment une sorte de capture de tous ces visages, de toutes ces atmosphères, avec une caméra qui est brinque-ballée entre les épaules, entre les couverts, entre les gens, quand, même dans les moments où ils pleurent, où ils sèchent les cheveux. Et il y a la capture comme ça d'une sorte de foyer chaud, je sais pas, dans laquelle on se retrouverait au centre, comme ça. Et en même temps, dont un personnage essaye de se décentrer.
Mais.
Ouais, moi j'ai beaucoup aimé. Enfin, non, j'ai assez aimé aussi. Enfin, j'ai aimé, globalement.
Ah, on sait d'où vont venir les réserves aujourd'hui.
Non, mais j'ai pas vraiment de réserves. C'est juste que j'ai pas non plus été transcendée par ce film. Mais j'ai vraiment apprécié l'esthétique globale, un peu froide, un peu soviétique, en fait. Et le côté un peu. Un peu, je sais jamais trop comment décrire ça, mais c'est vraiment particulier, je trouve, ces décors
c'est bleu.
Des pays de l'Est, quoi. Puis même les rues un peu saccagées, enfin, jusqu'au personnage, tout est un peu saccagé, un peu pauvre, pas très clinquant, et enfin, j'ai toujours aimé cette esthétique là et je trouvais que ça allait très bien avec l'histoire que ça racontait. Là, comme ça, je sais pas quoi dire d'autre.
Oh bon, on reviendra sur la suite. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. C'est exactement le cinéma que j'aime voir, on va dire. Déjà, toute cette veine du cinéma des pays de l'Est, très sociale et en même temps très esthétique. Et où, comme tu le disais, Léa, où l'esthétique nourrit en permanence l'aspect très documentaire du cinéma. C'est vraiment la force de ce cinéma. Qui creuse aussi toutes les misères de cette société russe comme le font de façon certes assez différente mais un peu dans le même esprit des gens comme Andrei Taginsev et il y a vraiment une beauté plastique évidente sur laquelle il faudra revenir et en même temps un propos qui est vraiment saisissant et qui réussit à, comme tu le disais, à créer une espèce d'effet d'immédiateté. On est vraiment plongé dans ces endroits, dans cette petite société, et puis dans l'émotion aussi que ressentent ces personnages. Et on pourrait peut-être d'ailleurs commencer par ça, par la justesse de ce regard, la justesse presque documentaire du regard du réalisateur, alors qui est né dans la ville qu'il filme. Donc c'est, et il le dit d'ailleurs, il y a un moment où par quelques sous-titres, le réalisateur prend la parole au début du film.
Tout au début.
Voilà, je trouve qu'il y a quelque chose de presque documentaire et qui réussit à nous faire saisir très très rapidement tous les enjeux pourtant extrêmement complexes entre les différentes communautés qu'il peut y avoir dans cette ville, la tension permanente, l'antisémitisme aussi qui est un petit peu le dénominateur commun de toutes les autres communautés. Et puis, comme tu le disais, Maë, par les décors, par les costumes, ces rues, on voit, il y a une scène avec des rues et des nid de poules de 9 mètres de profondeur. Et quelque chose dont on sent que c'est pas uniquement du pittoresque, mais que c'est vraiment... D'ailleurs, il y a certaines scènes qui sont tournées comme en documentaire, c'est toujours cette même scène en voiture, où on attrape dans la lumière des feux de la voiture, on voit passer les passants...
Ah oui, non, on est loin de la touche locale. C'est pas du tout ça. Enfin, c'est le film qui... imprégné dès son intention de cet endroit, en fait. Ça porte là-dessus, ça porte sur ces poches communautaires où les Juifs sont une des communautés dans la communauté des Carbades, et donc, enfin, il me semble.
Oui.
Et donc, tout le film est oppressé dès l'origine par cette chose. Il est né de ça, donc non, on n'est pas dans un ajout superfétatoire après, au fait... voilà, ça se tient lieu. Enfin, non, on n'est pas là-dedans.
Je dirais même que ça va au-delà de ça. Enfin, on est dans une société où il n'y a aucune perspective, aucun avenir et aucune... Enfin, tout est fade. Enfin, toute leur vie sont fades et ils le savent. Et enfin, c'est un peu...
Je sais pas si c'est...
Enfin, fade, comment dire. Disons que c'est un peu à l'image de ce décor, tu vois. C'est un peu résigné. Tout est...
C'est...
Je sais pas, parce qu'on est quand même avec un personnage qui se faufile tellement partout, Ilana.
Oui, mais qui est...
Oui, mais elle se faufile, mais elle sort pas de cette ville, de ces trucs très glauques, enfin de ce...
Et le titre français est vraiment pertinent, justement, cette vie à l'étroit. On a cette sensation que, ben oui, que ces gens vivent un petit peu à l'étroit dans leur univers. Un sentiment d'étroitesse qui est déjà généré par le cadre, puisqu'on est... On doit être sur du 4 tiers, ou en tout cas on a un cadre très très resserré, on est souvent sur des gros plans. Et oui, le personnage d'Ilana là-dedans essaye déjà de s'échapper du cadre. Ce visage qui est régulièrement filmé en gros plan, et puis c'est quelques scènes où elle danse et où elle se cogne au bord du cadre presque, il y a quelque chose qui passe vraiment par la forme. Et puis, au-delà de la question communautaire, parce que finalement, ben, Ila et son copain qui est Cabard réussissent malgré tout, ben, ils sont ensemble, donc ils réussissent à incarner peut-être un dépassement de la communauté, mais il y a une jeunesse qui, dans l'absolu, se retrouve enfermée dans un monde où elle n'a manifestement pas sa place, où... La société est enfermée dans le carcan de lois millénaires et communautaires, etc., qui les empêchent d'exister pleinement. Et puis dans un monde aussi où tout se vend, puisque l'histoire de ce film n'est pas du tout celle d'un thriller où on va rechercher les deux jeunes gens kidnappés, mais c'est bien l'histoire de cette fille qui va être plus ou moins vendue pour pouvoir racheter le fils. Et il y a quelque chose d'une violence infinie, en fait. C'est vraiment une jeunesse perdue dans un monde où la violence est dans chaque plan, elle sourd dans chaque image, et ça culmine dans une scène centrale et insoutenable du film, je pense, à cette scène où justement elle est avec les amis de son copain, et où il se retrouve à regarder, on voit un vieil écran de télé diffuser une cassette VHS de miliciens tchétchènes qui égorgent des soldats russes, et on a ces images qui sont projetées pendant de longues, longues minutes, et où là, d'un coup, la violence éclate et prend à partie le spectateur.
Ouais, les personnages n'échappent à rien, en fait. Enfin, tu disais qu'elle essaye de sortir de son cadre, etc. Elle arrive à échapper à sa communauté, elle va quand même avec son copain, elle va quand même faire ses soirées, mais on voit bien qu'elle reste enfermée dans ce contexte-là. Enfin, même à la fin, quand ils partent physiquement de la ville, on voit bien qu'ils restent enfermés dans leur monde. Même les images de nature, qui sont d'ailleurs assez apaisantes par rapport aux images un peu plus urbaines, je trouve, du début. On voit bien que les personnages n'échappent pas à leurs conditions et à eux-mêmes.
Disons que le calme ne survient que dans la résignation, finalement, à la fin du film.
Et puis, tu parlais de violence. Je trouve qu'il y a aussi toute la violence des relations familiales, des relations de la mère qui est complètement...
Elle est fantastique, cette mère.
Oui, elle est fantastique, mais ça montre aussi un regard assez... Ça pose un regard assez froid sur les relations familiales et sur cette mère qui, en fait... J'ai pas envie de spoiler la fin,
mais... Qui se fait l'instrument de cette violence aussi, et qui, et y compris sur elle-même, qui perpétue ce fonctionnement, cet enfermement.
Sur elle-même et sur sa fille aussi.
Et sur sa fille, je veux dire, sur tout son entourage, sur ses enfants, et puis sur sa fille, sur son fils, qu'elle ne voudra pas laisser partir... qu'elle ne voudra pas laisser aller se marier lorsqu'il va être libéré, sur sa fille dont elle va essayer de disposer de la façon dont elle veut.
Oui, dont elle essaie plutôt de se débarrasser.
Dont elle essaie de se débarrasser lorsqu'elle n'en veut plus. Enfin, je veux dire, c'est une figure extrêmement oppressive, et puis en même temps, on sent que c'est peut-être le personnage le plus malheureux du film. Elle est incroyablement tragique, cette mère.
Oui, après, ce qui m'a plu dans ce film, c'est qu'il n'y a pas seulement ce côté une communauté oppressive, une mère loup et la jeune fille qui essaierait de sortir de ce carcan. C'est qu'il y a un vrai tissu psychologique, voire psychanalytique peut-être, je ne sais pas, qui vient retisser ça, redoubler ce fond. Et en fait, Ilana, elle a aussi envie de montrer à sa mère qui a toujours préféré son frère, qu'en fait elle peut elle aussi. Donc d'ailleurs la communauté elle la quitte jamais vraiment, elle y retourne toujours. À la fin elle revient dans cette espèce de grotte avec sa mère. Enfin, il y a tout un autre fond comme ça où t'as quand même accès un peu à la personnalité, au fond d'un personnage qui est bien plus compliqué qu'une simple jeune adulte qui aurait envie de sortir du clan.
Mais c'est ça qui est fondamentalement tragique, je trouve, c'est que justement ils échappent pas au topos psychologique, c'est-à-dire que l'enfant veut plaire à son parent même si elle veut aussi s'échapper en même temps. La mère veut retenir ses enfants auprès d'elle très égoïstement et les rejette pour essayer de moins souffrir peut-être, et va préférer son fils. Je sais pas si c'est l'aîné, non, c'est peut-être pas l'aîné en fait.
C'est
le second justement. Mais enfin, justement, je trouve que c'est ça qui est le plus tragique, c'est qu'ils échappent même pas à leur position psychologique dans la famille. Enfin, voilà, chacun a son rôle établi, un rôle assez freudien.
Un rôle établi, et puis en même temps, il y a des brèches. Et c'est peut-être là où le film passe du statut de bon film au statut de très très bon film. Je trouve que c'est justement dans ces brèches que le film ouvre et que le personnage d'Ila parvient à ouvrir dans son quotidien. Il y a la rue comme refuge, il y a ces moments répétés où elle s'enfuit dans la rue et où justement il y a cette caméra très documentaire qui s'accroche à son épaule et qui pose son regard à elle sur le monde. Et là on a vraiment l'impression de se sentir très très proche d'un très très beau personnage. Et c'est des moments qui, je trouve, sont particulièrement émouvants. Et puis, il y a quelques scènes où elle se retrouve même en elle-même. Justement, la scène qui précède cette scène où la violence éclate, où soudain elle se met à danser sur une espèce de musique un peu kitsch russe, et qui est vraiment une scène splendide. Enfin, il y a un ou deux morceaux de bravoure comme ça, où soudain... le réel est sublimé par la caméra, par les couleurs, les ombres, on n'en a pas parlé, mais l'esthétique est vraiment extrêmement belle. Et puis par cette actrice, alors souvent les réalisateurs se révèlent avec un grand acteur, une grande actrice, c'est vrai que là on voit un duo qui est assez époustouflant.
Oui, c'est assez incroyable, pardon. La scène dont tu parles, c'est peut-être la scène où elle a pris un peu de drogue.
Mm-hmm. Oui.
Oui, dit comme ça, c'est un peu étrange. Oui, c'est une scène magnifique. C'est un plan qui doit durer 2 minutes. Enfin, c'est moins, super oui. long. Et on...
Ah, et puis j'en prenais 5 de plus sans aucun problème.
Ah, mais aucun problème. On est dans son... dans sa peau, dans son visage, comme ça. Ah, c'est incroyable. Je sais pas quoi dire de plus.
Bah, globalement, les scènes où elle danse sont assez fantastiques.
Aussi, et les deux principales scènes où elle danse sont des scènes où la violence va finir par sortir d'elle-même. Et où il y a cette espèce de... où elle a besoin d'exprimer, mais au sens étymologique, de d'extraire d'elle-même cette violence, et où la scène se termine finalement sur cette violence qui sort d'elle, qui sort de son corps, et avant un douloureux retour au monde. Mais malgré tout, ces brèches ont eu lieu.
Elle
est passée par là, le film est passé par là, on est passé par là, et c'est de là, je pense, qu'il y a une beauté qui sort et qui irradie vraiment tout le film.
Et ce qui est assez symbolique, c'est que justement au début, elle refuse de danser quand elle est dans la sphère familiale et dans la communauté, et que c'est après qu'elle le fait, pour des raisons complètement différentes.
Bon, il faut aller le voir quand même.
Oui.
Voilà, donc ça s'appelle Tess Notas, c'est un film de Kantemir Balagov et c'est projeté encore cette semaine chez nos partenaires des Cinémas Lumière au cinéma Lumière Fourmi.